Segal, le midi, avec Myriam Segal et Jeff Blanchette.
Segal, le midi.
FM 93.
Ça fait trop longtemps que je me fie sur ça. Je sais pas si je vais déménager ou rester là.
T'as connaissé pas, hein,
Myriam? Non, pas celle-là, Myriam.
C'est la question que vont devoir se poser bien des inondés à l'issue de ce printemps qui s'annonce un des printemps historiques en matière d'inondation. Je dis historique en matière d'inondation, mais je suis pas tout à fait sûr que ce soit vrai. Parce que quand on fouille un peu dans le passé, notamment en ce qui concerne la rivière Chaudière, ce que je retrouve, c'est des éditoriaux qui datent de 1970, 1990, 1995, qui disent « Est-ce qu'il serait pas temps de dire au monde de déménager à place d'endurer des inondations tous les ans? » Et je retrouve même, en 95, un gouvernement qui s'est retrouvé mal pris parce qu'il avait lui-même autorisé la construction d'un immeuble gouvernemental dans une zone inondable.
Oups.
Youpi! Il y a des gens qui regardent ça depuis longtemps et qui ont leur opinion sur la façon dont on a envahi les zones inondables avec des maisons qui forcément se retrouvent inondées, mais des maisons qui appartiennent à des gens pleins de bonne foi. On a au téléphone Isabelle Thomas, qui est professeure titulaire à la Faculté de l'aménagement de l'École d'urbanisme et d'architecture de paysage à l'Université de Montréal. Bonjour, Madame Thomas.
Bonjour.
Est-ce qu'on doit relocaliser les gens qui sont inondés à répétition?
Écoutez, c'est une question qui est forcément extrêmement sensible et difficile, et je vais quand même dire que ça va dépendre des situations. Bon, mais quand même, il est absolument évident qu'à partir du moment où, quand on fait une analyse de risque, l'analyse de l'aléa, l'analyse de la vulnérabilité, qu'on se rend compte qu'on a des quartiers, qu'on a des zones qui sont vraiment déjà dangereuses, isolées, et où les citoyens se retrouvent face à la même détresse tous les deux, tous les quatre, tous les cinq ans, etc., il est évident qu'il faut absolument mettre en place des mesures, que ce soit le déménagement, que ce soit des mesures où on va vraiment adapter le bâti, et c'est vrai que dans certains cas, le déménagement peut être approprié.
Comment est-ce qu'on en est arrivé à cette situation-là? Moi, j'ai pointé la voracité des villes qui sont pas capables de dire non à un 3 000 $ de taxes annuelles, là, mais peut-être que je suis un peu simpliste.
Écoutez, c'est un problème complexe. C'est évident que déjà, on s'est installé au Québec, en Europe, etc., près de nos rivières, parce que forcément, c'est là qu'on pouvait faire tout le commerce, tous les échanges. Et puis, petit à petit, on a grignoté du territoire. Aussi, ce qu'on a fait, c'est que, on le sait au Québec, hein, on aimait beaucoup la villégiature, et il y a beaucoup de chalets qui, petit à petit, ont été transformés en maisons principales. Mmh. Alors, le problème, en fait, il faut qu'il se voit à différentes échelles. Et aussi, on a différentes typologies, catégories de villes. Parce que forcément, la ville de Québec, la ville de Montréal, ne vont pas du tout avoir les mêmes enjeux que des petites villes comme Rigaud, Pointe-Fortune, Sainte-Marie, etc. Le problème, c'est aussi exactement comme vous dites, ça va être l'assiette fiscale des villes qui, malheureusement, parfois, ne réalisent pas qu'elles vont plutôt prôner un développement, et un développement parfois dans des zones à risque, plutôt vers des mesures de prévention et de précaution. Alors aujourd'hui, on ouvre les yeux, on va se dire, il est temps. Et donc, développons, mettons en place, prenons action pour mettre en place vraiment des mesures qui vont permettre de protéger nos citoyens tout en permettant à nos villes d'avoir un développement viable. Et donc, il y a vraiment une réflexion de fond qui doit être faite.
Moi, j'ai l'impression que cette réflexion de fond, elle a dû être faite déjà depuis quelques années, au moins en Beauce, là. Je retrouve des éditoriaux qui datent de 1990 où on dit que on devrait peut-être cesser d'indemniser les victimes d'année après année puis les déménager. On est-tu rendu à le faire ou on est encore rendu à réfléchir?
Je pense très très sérieusement aujourd'hui qu'on est rendu à le faire. Et puis c'est vrai qu'un des problèmes aussi de tous les dédommagements qu'il y avait avant, c'était qu'on reconstruisait beaucoup à l'identique. Alors on a beaucoup fait de retours d'expérience justement avec le ministère de la Sécurité publique pour réfléchir et pour se rendre compte que parfois justement il faut donner des options, des incitatifs pour déplacer les citoyens, et que si on permet de reconstruire parce que les zones ne sont pas tant à risque, alors il faut absolument adapter le bâti, se mettre sur pilotis et aussi réintroduire la nature en ville. Vous savez, il y a des quartiers à l'international, par exemple, comme en France, le quartier de Matras, que je donne assez souvent en exemple, où ils ont redonné la place à la rivière et ils ont construit sur pilotis. Donc on peut avoir différents types de solutions, mais souvent, très souvent, c'est clair qu'il va falloir vraiment construire différemment, abandonner les sous-sols, construire sur pilotis, adapter le bâti et en effet, parfois vraiment déménager.
Les pilotis, je comprends, je vois ça en Caroline du Nord, dans le sud des États-Unis. Vous me dites qu'en France, il y a un quartier qu'ils ont fait comme ça. Sauf que au Québec, il y a aussi des maudits gros icebergs qui sont transportés par nos rivières. Puis quand ça rentre dans un pilotis, ça doit te mettre la maison à terre. Est-ce qu'il n'y a pas là un empêchement?
Disons que quand je parle de pilotis, c'est sûr qu'il ne faut pas regarder le type de maison comme à la Nouvelle-Orléans où on se retrouve à 1,50 m du sol. Ouais. Là, en plus, on parle plus de rehaussement de la maison et vous êtes tout à fait correct. C'est évident que quand vous avez en plus de la glace qui vient détruire les fondations, ben là, malheureusement, la réflexion se pose sur comment finalement déplacer certaines zones qui sont les zones les plus à risque.
Madame Thomas, actuellement, là, si je rêve d'une maison neuve dans une zone inondable, quelles sont les contraintes auxquelles je dois me soumettre?
Mais normalement, si vous avez l'intention de construire dans une zone inondable, vous ne devriez pas avoir le droit d'avoir un permis.
Alors,
c'était une question. Non, je pense qu'aujourd'hui, on a compris. Et ça va être la responsabilité tant des municipalités et des maires, mais aussi, il faut absolument qu'on ait la perception des citoyens, qu'on ait aussi une acceptabilité du point de vue là, de notre société, d'arrêter de construire dans ces zones à risque. Et au contraire, d'en profiter, redonner de la place à nos milieux hydriques, de retrouver aussi la liberté de pouvoir aller sur les berges des rivières et ça peut justement éventuellement améliorer le cadre de vie pour tout le monde.
On accuse beaucoup les gens qui sont construits près dans ce qu'on appelle maintenant des zones inondables, mais il arrive que les zones où ils se sont construits ne l'étaient pas avant qu'ils s'y construisent et que ce soit devenu inondable parce que, par exemple, on a défriché des terres ou on a développé des quartiers résidentiels puis que du coup, le sol n'est plus capable de faire sa job d'éponge.
Oui.
Est-ce que tout ça, se calcule par des urbanismes?
Écoutez, en effet, ça se calcule aussi par des géomorphologues, par des hydrologues, et c'est pour ça qu'on prône de plus en plus, on encourage de plus en plus les travaux par bassin versant, les travaux à différentes échelles. Je vais vous donner un exemple. Là, dernièrement, j'étais en France pour les Assises nationales des risques naturels, et c'est c'est évident que sur un bassin versant, si vous avez des coupes franches à l'amont, les catastrophes à l'aval vont être vraiment renforcées. Donc la réflexion, elle se fait sur l'ensemble du territoire et aussi sur les milieux agricoles. Et on peut même avoir la réflexion de se dire, développons une solidarité au niveau du territoire et peut-être compensons les agriculteurs, inondons des terrains pour s'assurer que l'eau arrive moins ensuite en ville dans des zones qui sont déjà aujourd'hui extrêmement urbaines. Parce que c'est évident que pour des citoyens qui ont acheté leur terrain il y a 10, il y a 20 ans, la cartographie est en train de se refaire et là, ils vont se retrouver dans des situations très difficiles.
Mais au départ, est-ce que c'est pas toute la fiscalité municipale qui est tout croche? Parce que une ville, sa vie, notamment, puis ça, on les voit, là, ils ont de la misère à résister aux offres des promoteurs parce que, regarde, je vais te bâtir 50 maisons, tu vas ramasser 3 000 $ par maison, tu vas avoir un 1,5 million de plus pour donner des services, faire un parc, etc. Tu sais, départ la fiscalité municipale qui est tout croche?
Écoutez, c'est évident que la fiscalité municipale doit être repensée. Et je vous donne l'exemple encore une fois en France. En France, justement, avec les catastrophes très très fortes qu'il y a eu dernièrement, malgré toute la planification et tous les plans qui ont pu y être développés, ils ont développé une nouvelle compétence qui s'appelle la compétence GEMAPI, qui est la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, qui est développée en janvier 2018. Et avec cette compétence, les municipalités peuvent redévelopper leur milieu hydrique, s'assurer de la maintenance de leurs digues, déplacer éventuellement des habitations. Et ce qui est très important, c'est qu'ils peuvent développer un impôt qui va jusqu'à 40 euros par citoyen pour avoir justement la capacité de financer ces aménagements. Et au Québec, par exemple, si on regarde la ville de Saint-Jean-de-Richelieu, avec un référendum, la ville de Saint-Jean-de-Richelieu a justement encouragé les citoyens à pouvoir prélever une taxe qui leur permet aujourd'hui de développer des milieux hydriques, des parcs, de repenser leur aménagement du territoire. Donc, en effet, il faut absolument, on peut donner des responsabilités, mais aussi il faut donner le moyen d'action de changer notre façon de construire nos territoires et d'aller vers des collectivités plus résilientes. Et aussi, vous savez, excusez-moi.
Non, je voulais dire parce qu'actuellement, quand il y a un problème d'inondation, le provincial arrive à la rescousse et va débloquer les sommes pour indemniser, pour donner un coup de main sur le terrain. Les municipalités, elles, sont pas vraiment pénalisées, sinon leurs citoyens qui ont les deux pieds dans l'eau puis qui vivent un drame personnel dans leur sous-sol, là.
Alors ça, on peut donner l'exemple, par exemple, de la FIMA, qui petit à petit a aussi changé ses réglementations, parce que ils voulaient pas non plus arriver à la faillite en dédommageant justement tout le temps à l'identique leur collectivité. Et un des outils qu'ils utilisent, c'est que si les collectivités, si par exemple une ville n'accepte pas d'utiliser la cartographie des zones inondables et continue à donner des permis justement dans des zones à risque, eh bien ces villes-là ne vont pas avoir accès justement au dédommagement. Donc petit à petit, c'est évident qu'il va falloir réfléchir à des outils pour encourager les municipalités à respecter en fait les régulations, tout en donnant des incitatifs pour le coup pour ceux qui se montrent des pilotes, des leaders. On voit d'ailleurs actuellement la communauté métropolitaine de Montréal qui repense complètement à sa réglementation, à son zonage pour s'assurer de protéger la reconstruction en zone inondable. Donc il faut encourager aussi les bonnes pratiques.
Que pensez-vous de la proposition de François Legault qui dit, garde, on va te dédommager une fois si tu te fais inonder. Après ça, tu auras le choix. Ou tu restes avec ton trouble, ou le prochain chèque, c'est pour te faire déménager.
Ben, en fait, moi, ce que j'ai compris, c'est qu'on va dédommager une fois ou plusieurs fois jusqu'à 100 000 $, jusqu'à hauteur de 100 000 $. Et puis ensuite, en effet, on va vous encourager à déménager. Et donc, du coup, vous aurez accès aux 200 000 $ pour le bâtiment et 150 000 $ pour le terrain. Et je vois la réflexion derrière que j'ai vue aussi aux États-Unis ou en France, parce que dans certaines zones, vous parliez tout à l'heure de la Beauce, je peux vous donner aussi l'exemple de la Nouvelle-Orléans, on se rendait compte qu'il y avait des maisons, du bâtiment, qui, année après année, pouvaient atteindre, vous savez, des sommes jusqu'à 300, 400, 500 000 $, alors que le bâtiment, lui, n'en valait que 150 000. Alors c'est clair qu'il faut réfléchir à des mécanismes pour limiter les dédommagements, surtout si le dédommagement permet une reconstruction à l'identique, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Donc on se rend compte quand même qu'on a une grande prise de conscience et un leadership. Mais il faut quand même penser à responsabiliser aussi les citoyens pour s'assurer, surtout que le citoyen, là ils sont face à une détresse terrible. Oui. On est de tout cœur avec eux. Moi, vous savez, j'ai été inondée jusqu'au toit lors de l'ouragan Katrina parce que j'habitais à la Nouvelle-Orléans à ce moment-là. Okay. Donc je sais ce que c'est que d'aller chez soi et de se rendre compte que tout est détruit. Et c'est vrai qu'il faut justement amener des incitatifs. Il faut travailler, c'est ça que je voulais aussi vous dire tout à l'heure, sur la perception du risque, sur la communication vis-à-vis du risque, pour que nos citoyens, nos concitoyens se rendent compte que petit à petit, la solution éventuellement, ça va être de se relocaliser ou au moins, si c'est possible, de vraiment d'adapter sa maison, d'adapter son bâti pour ne pas vivre ces catastrophes tous les 2 ans, tous les 5 ans.
Merci beaucoup, Madame Thomas.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Isabelle Thomas est professeure titulaire à la Faculté de l'aménagement, l'École d'urbanisme et d'architecture de paysage à l'Université de Montréal. Tu vois, elle en arrive effectivement à la conclusion qu'il n'y a peut-être pas une solution à grandeur du Québec, mais qu'il va falloir que ça arrête, là.
Oui, puis notre perception du problème est vraiment affectée par le fait de rester ou pas, ou de connaître des gens qui sont inondés ou pas. Je voyais les commentaires en fin de semaine sur les médias sociaux, tous ceux qui disaient on devrait arrêter d'indemniser ces gens-là, ils se sont mis dans leur propre pétrin en s'établissant sur le bord des rivières, eux disaient arrêtez. Tandis que ceux qui disaient hey, « moi, j'ai un oncle que j'ai aidé en fin de semaine passée à cause des inondations », eux étaient beaucoup plus affectés émotionnellement, puis disaient « il faut leur donner un coup de main ».
Oui, mais il faut aussi, une fois qu'on a donné le coup de main, puis qu'on a aidé à passer l'émotion, il faut aussi pouvoir prendre une décision rationnelle. Tu vois quelqu'un qui dit « le jour où la facture ne peut plus être passée à quelqu'un d'autre, le problème va se régler de lui-même ». C'est le jour où tu peux pas dire « Mais là, je vais recevoir 100 000, je vais pouvoir me repartir, reprendre une petite pote. » Regarde, ça va se régler de lui-même. Mais il faut aussi regarder la façon dont les municipalités se sont développées. Puis toutes les dérogations. Puis comment ça se fait que les municipalités cèdent à l'idée de donner des dérogations pour construire en terre inondable?
La proposition de la FIMA dont Mme Thomas parlait, là, d'arrêter de donner de l'argent à ces municipalités-là lorsqu'il y a des inondations puis qu'il y a des zones qui étaient inondables qui ont été développées, je pense que c'est un bon coup de bâton. Là,
dans le genre Rigaud-Lascaux.
Oui.
Vous l'avez eu en 2017, vous l'avez en 2019.
Ça, vous construisez une maison dans la zone qui est cartographiée puis qui est à risque. C'est terminé. Vous ne pourrez plus être avare puis vouloir plus de taxes. Vous vous arrêtez complètement, sinon on ne vous indemnise plus.
Je vais essayer de trouver une copie un peu plus facile à lire de l'article que j'ai reçu sur l'historique des inondations en Beauce. Puis vous allez comprendre que ça fait plus de 100 ans qu'on dit on ne peut pas laisser les maisons là. Ça fait plus de 100 ans qu'on le dit. Est-ce que c'est la CAQ qui va finir par le faire? Il est 13h24.